RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Sylvie Chanfraud,
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars, et c'est Guilhem Thiénot qui nous accompagne à la technique. Bonjour à tous, nous allons poursuivre notre aventure avec les anges, c'est-à-dire avec les porteurs de parole. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un passage que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. C'est ce qu'on appelle l'Annonciation. C'est donc la visite de l'ange Gabriel auprès de Marie pour lui annoncer la naissance future de Jésus. Donc, un beau récit qui, dans la liturgie, se situe aussi juste un petit peu avant Noël. Un beau récit pour nous donner l'effet d'une annonce, l'effet d'une parole qui vient de la part de Dieu. Je vous propose d'écouter tout de suite ce passage. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Et nous allons entendre le récit donc, qui va du verset 26 au verset 37.
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son sixième mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta.
Voilà donc un récit que les peintres ont pris bien souvent comme thème d'inspiration aussi. On peut penser à l'Annonciation de Fra Angelico. Hein, voilà. Mais donc nous allons regarder ce récit. Nous n'aurons pas le temps de travailler tous les aspects, mais peut-être quelques-uns quand même. Alors, On nous dit que le sixième mois, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. Hein. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Alors donc là, une situation un peu particulière, c'est cet ange-là, qu'est-ce qu'on peut en dire, l'ange Gabriel ? Est-ce que vous en savez quelque chose ?
L'ange Gabriel, c'est la force de Dieu, celui qui est envoyé d'auprès de Dieu, il vient porter la parole.
Donc l'ange Gabriel était déjà celui qui était venu trouver Zacharie dans le temple aussi pour lui annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste. Hein. Donc voilà, l'ange Gabriel est là. Et puis, on nous parle d'une jeune fille. Qu'est-ce qu'on sait d'elle ?
On ne sait pas grand-chose d'elle, en fait.
On sait qu'elle est promise en mariage, accordée à un mariage, puisque les fiançailles, c'était déjà le mariage presque réalisé. Donc, accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Donc, c'est Joseph qui est de la famille de David. On sait quelque chose.
Il vient d'une lignée, lui.
Voilà, il vient d'une, et puis pas n'importe laquelle, de David quand même. Hein, donc, alors, l'ange entra chez elle, ou auprès d'elle, et lui dit, alors, donc, sois joyeuse, toi, favorisée de Dieu, le Seigneur est avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette annonce, cette première parole de l'ange, quand on dit qu'il entre chez elle ou qu'il entre auprès d'elle?
Il ne s'agit pas de sa maison, parce que Marie vivait sans doute dans la maison de ses parents. Il s'agit de son intimité, de ce qui est au plus intime d'elle-même.
Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas du tout le mot maison.
Non,
donc,
non, du tout.
Voilà. Il y a quelque chose, donc, le porteur de parole de la part de Dieu, on peut dire ça comme ça, qui entre en son lieu le plus secret, qui entre dans la profondeur d'elle-même, peut-être profondeur qui lui échappe. Hein. Donc, vous voyez que le porteur de nouvelles, c'est le porteur de bonnes nouvelles, c'est l'évangile, hein, c'est le messager de la bonne nouvelle. Voilà, on est déjà orienté vers quelque chose qui nous révèle la face cachée des choses. Hein, vous voyez, donc ce qui ne va pas se voir et se décrire, on ne peut pas faire un reportage là-dessus. Voilà. De Marie, la jeune fille de Nazareth, nous ne savons pas grand-chose. Rien de connu de son histoire familiale. Elle ne demande rien. Alors, on a vu dans les autres émissions qu'il était quand même souvent question de femmes stériles.
Oui.
Vous rappelez, pour Sarah, pour la femme de Manoah, la mère de Samson. Et ici, Marie, on ne nous dit pas qu'elle est stérile. Elle est jeune fille. Elle n'est pas vieille.
On sait qu'elle s'appelle Marie, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose au travers de son nom, de son anthroponyme, est-ce que Marie peut...
On peut peut-être dire que la figure de Marie, on va la retrouver quand même dans les évangiles. Hein. Elle va prendre des facettes différentes. Mais donc ici, on pourrait dire qu'elle est toute neuve, en fait, pour cette histoire nouvelle. Il n'est pas dit qu'elle est en mal d'enfant dans l'histoire de son peuple. Hein. Elle est disponible, si on veut, pour accueillir l'inouï de la vie. Et alors ça, cette salutation de l'ange, on est tellement habitué avec l'expression « je vous salue, Marie ».
Je vous salue, oui, effectivement. Là, c'est « réjouis-toi ».
Oui, c'est quand même fort, non ? Sois joyeuse, réjouis-toi.
Là aussi, on est dans l'annonce de la bonne nouvelle.
Oui, donc c'est de la joie qui est d'abord au cœur de l'événement. Hein. Donc, et puis, on dit aussi qu'elle est comblée de grâce.
Elle vit déjà dans la grâce de Dieu.
Oui. Donc, ce qui lui est révélé par la parole de l'ange, c'est qu'elle est auprès de Dieu sur le registre de la grâce, hein, de la gratuité. Voilà. Donc,
elle est déjà remplie du divin.
Oui.
Oui.
On pourrait presque dire que l'ange est envoyé par Dieu auprès d'une jeune fille qui est déjà dans le oui à Dieu.
Oui, parce qu'en fait, il vient lui révéler déjà cette vérité-là.
Voilà. Et peut-être que c'est ça. Donc elle est comme révélée croyante dans la parole de l'ange. Hein. Donc en tout cas, elle est invitée à la joie. Hein, voilà. La présence du Seigneur est en elle. Alors là, on dit que Marie au verset donc 29, à ces mots, elle fut très troublée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Bon, elle est troublée. On le serait à moins, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est troublée, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous ? Quand même, quand nous avons quelque chose qui est de l'ordre de l'inouï, il y a quelque chose qui n'est pas dans le déroulement habituel de la vie, il y a quelque chose de neuf qui s'inaugure. Et c'est le trouble, c'est peut-être le début de...
Le frémissement, quelque chose qui commence à agir. On ne perçoit pas vraiment ce que c'est. On n'est pas capable d'en donner la nature ni de l'expliquer. Mais c'est quelque chose que l'on ressent tout au fond de soi.
Donc déjà ce trouble peut-être a quelque chose de tout le frémissement de l'être, hein, comme vous dites Sylvie, il y a quelque chose déjà qui a bougé, quelque chose qui s'inaugure là déjà.
Oui, ça ouvre un chemin.
Oui, ça ouvre un chemin, mais un chemin impensable.
Improbable, oui.
Inouï. Improbable, oui. Inouï. Voilà. Alors après va se poser donc pour Marie la question du comment. Hein. Elle dit voilà. Et l'ange lui dit, voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur... la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Ben là, il y a quand même beaucoup de choses. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de regarder un peu la profondeur de cette annonce. Voilà, avec cette musique de Noël, nous sommes déjà dans la réalisation de la parole de l'ange. Voilà, c'est ce qui se passe en Marie. Hein, donc, alors oui, voilà, ce qu'on lui annonce, je reprends le récit, le superbe récit de Luc, qu'on appelle l'Annonciation. Nous sommes au chapitre 1 de Luc et je relis le verset 31. « Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand. » sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Alors, on peut déjà reprendre peut-être la question de Marie. On trouvera comme traduction, différentes traductions pour ça, non ? Jean-Luc, vous avez lu tout à l'heure... puisque je suis vierge. Hein, donc, on peut trouver aussi, puisque je n'ai pas de relation conjugale. Et en fait, mot à mot, nous avons dans le texte grec l'expression « puisque je ne connais pas d'homme ». Alors, est-ce qu'en fait, est-ce que c'est logique qu'elle dise « je ne connais pas d'homme » elle connaît quand même Joseph, puisqu'elle est promise en Joseph. Mariage à Joseph. Mais en même temps...
Elle ne connaît pas d'homme qui soit à la hauteur de cet événement.
Oui, parce que qu'est-ce qu'on vient de lui dire ? Que l'enfant, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Est-ce qu'un humain est à la hauteur
d'être... peut se reconnaître comme étant le fils du Très-Haut.
Comme étant le père, comme s'il pouvait engendrer le fils du Très-Haut. Hein. Donc vous voyez que là, on est dans quelque chose de complètement sidérant quand même. Hein. C'est, voilà. On pourrait dire y a les choses qui sont possibles et puis les choses qui ne sont pas possibles. À vue d'homme, c'est pas possible d'engendrer le fils du Très-Haut. On peut dire ça comme ça. Hein, voilà. Donc, sauf peut-être dans les contes de fées, on a des choses qui sont un peu extraordinaires. Hein, donc, voilà. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Alors Marie interroge quand même. L'ange lui répond dans quel registre ? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comment est-ce qu'on entend ça ?
On est presque dans une préfiguration de la Pentecôte, quelque part.
Oui, mais en tout cas, ça nous dit que ce qu'il en est sur le registre de cette conception-là échappe à l'humain, au biologique, à ce que nous connaissons. Hein, donc, ce qui est dit là, c'est que c'est autre chose qui se passe. Hein, cet Esprit Saint là qui couvre de son ombre, ça nous dit quelque chose de l'engendrement d'en haut, hein, un engendrement d'en haut. Pour Jésus, voilà, ça c'est l'heure de sa venue dans la chair, hein. Donc dans la chair de la petitesse de sa servante. Et lui, le fils du Très-Haut, il va en quelque sorte devenir le Très-Bas.
Nous rejoindre en tout cas dans ce qui fait notre humanité.
Oui, mais peut-être que oui, ça veut dire aussi cela que désormais, si on veut chercher Dieu, il faudra le chercher
parmi les humains,
dans la profondeur
de l'humanité,
de ce qui est humain. Voilà, c'est
et sans doute parmi les plus pauvres.
Exactement. Oui. Donc c'est aussi cette humilité là qui est exprimée. Hein, voilà.
Et puis il vient nous ouvrir aussi à ce monde divin.
Voilà, donc ce monde divin qui vient dans l'impossible des humains et qui vient briser toutes les apparences. Alors, il est dit aussi, et voici qu'Élisabeth, ta parente, est enceinte d'un fils dans sa vieillesse, elle est en son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça au lieu de dire rien n'est impossible à Dieu? Comment on pourrait traduire ça? Parce que c'est pas comme ça que c'est dit, mot à mot, car...
Il est question de parole, il me semble.
Il est question de parole. C'est ce qui est dit de la part de Dieu ne sera pas impossible. Voilà, c'est de l'ordre de la parole. Hein. Donc, c'est ce qui est dit de la parole de Dieu, ce qui est dit par l'ange, ne sera pas impossible. Ça va se réaliser. Donc là, peut-être que dans la réponse de Marie, on va peut-être trouver un écho de cela. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur. » Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. On pourrait traduire aussi qu'advienne pour moi ta parole dite. Qu'advienne pour moi ta parole dite. Alors là, peut-être qu'on peut s'arrêter un peu là-dessus aussi, parce que donc c'est la parole qui devient réalité. C'est la parole qui devient fruit en quelque sorte. Hein, voilà. Peut-être que pour ce passage, on pourrait se dire, est-ce que dans nos vies, on a aussi cette expérience d'une annonce, d'une parole qui peut prendre corps et une parole qui alimente en nous cette vie divine ? Est-ce qu'on a cette expérience-là ? Je vous sens perplexe là, hein, voilà. Est-ce que là nous sommes en train de lire cette parole, est-ce que ça nous concerne ou est-ce que c'est une belle histoire qu'on nous raconte? Cette parole-là, elle nous advient aussi quand même, non? Quelque chose de cette annonce d'une vie oui, autre.
Comme toute parole, nous sommes concernés. On doit ressentir l'écho que ça fait dans nos vies. Et voilà, est-ce que nous savons être disponibles pour accueillir la parole? Est-ce que nous reconnaissons que cette parole est efficace en nous, dans nos vies?
Oui, mais est-ce que ce petit récit-là ne nous dit pas aussi ce qu'il en est de toute naissance d'en haut chez les fils des hommes? Justement, c'est ce que vous essayez de dire, Sylvie. Donc, une manière de dire qu'il y a de ça aussi pour nous. Peut-être pas de façon aussi plénière que pour Marie, parce qu'elle va mettre au monde celui qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Mais pour nous, il y a aussi... de l'engendrement d'en haut. Donc, pour nous, cette annonce est bonne nouvelle aussi. Hein. Alors, je vous propose maintenant d'entendre peut-être en écho, on va pas tout lire, mais ce qu'il en est dans le récit de la nativité au chapitre 2, ce qu'il en est vient de l'intervention de l'ange ou des anges auprès des personnages, des bergers à qui reçoivent une annonce inouïe.
Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les gloires de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. »
Alors voilà encore, donc nous, on n'a pas lu tout le récit évidemment de la nativité, mais on nous dit que dans le pays, voilà, on nous a raconté la naissance de Jésus, Marie a accouché de son fils premier-né, l'a emmailloté, le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, de l'humanité, il n'y a peut-être pas de place pour celui-là. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Donc, ces bergers-là, ils sont pas dans la ville, ils sont un petit peu en dehors. Cette figure des bergers-là, ça nous dit quoi? Qu'est-ce qu'ils sont, ces bergers?
Les bergers, ça représente tout le monde, nous, la population, pas ceux qui sont au fait de ce qui se passe, mais la nouvelle va leur être donnée en
oui.
Premier.
Mais en même temps, les bergers, c'était les gens, les pauvres gens, ceux qu'on excluait parce qu'ils étaient pas dignes, ils étaient impurs parce qu'ils s'occupaient des animaux. Donc, mais on nous dit que ces bergers-là, ils veillaient l'éveil de la nuit. Mot à mot, c'est ça. Ils veillaient l'éveil de la nuit avec leurs troupeaux. Ça dit quelque chose déjà, non? Veiller l'éveil de la nuit.
Ben, ils sont à l'écoute. Ils sont aussi dans l'accueil, comme Marie. Et, ils sont disposés à entendre.
Ils attendent quoi, quelque chose. Oui. Et puis, ils sont dans la nuit. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. qu'est-ce qui arrive avec l'ange? On pourrait dire, on s'attendrait à ce que ce soit l'ange qui soit lumineux. Qu'est-ce que vous en pensez? Or, qu'est-ce que ça produit, la parole de Dieu? Ça les enveloppe de lumière.
La parole les éclaire?
Oui. Mais c'est presque plus que les éclairs.
Ça leur fait comme un manteau, ça leur fait un vêtement, oui. En fait. C'est ça qui est particulier. On dit que ça les enveloppe, en fait. Donc ça, c'est quelque chose de...
Ils sont enveloppés, donc ils ne sont pas éclairés d'un endroit, ils sont enveloppés, ça.
On a encore cette image de l'Esprit Saint le protecteur qui vient, en fait...
Eux, ils sont enveloppés de lumière par la parole de l'ange, c'est-à-dire qu'ils sont évangélisés, parce que l'ange, c'est l'évangile, c'est ce qui porte la nouvelle, l'ange, c'est le porteur de nouvelles. Eux, ils sont évangélisés. Le manteau de lumière, c'est qu'ils sont évangélisés, puisque l'ange apporte une bonne nouvelle. Hein, donc, et on pourrait dire que cette lumière les transfigure de l'intérieur. C'est comme si après, eux-mêmes étaient et devenaient des anges, en quelque sorte.
On a cette image d'aura, en fait, un petit peu.
Et ils deviendront aussi porteurs de parole pour les autres.
Alors là, effectivement, à la fin du passage, il sera dit donc que les bergers vont trouver l'enfant à Bethléem. Mais ensuite, on nous dit que c'est eux qui racontent et de faire connaître tout ce qui avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous étaient étonnés de ce qu'eux-mêmes disaient. Donc voilà, c'est eux qui sont transformés en anges de lumière pour d'autres, eux, les petits de la terre. Mais il est question des anges aussi, mais il y a un ange au départ dans ce récit. Et après, on nous dit qu'il y a toute une armée d'anges, une armée céleste qui arrive et qui dit gloire à Dieu au plus haut du ciel. Donc on a l'impression que cette armée céleste d'anges, c'est comme si une parole éclatait aux dimensions de tout l'univers, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la paix pour tous les hommes. C'est gloire à Dieu au plus haut et paix sur la terre. Voilà ce que disent... c'est ce que dit cette multitude d'anges. Bien, c'est une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle. Voilà, les anges sont à la fois dans la prévenance, mais sont aussi dans le fait de faire éclater ce qu'il en est de la bonne nouvelle aux dimensions du monde. Merci d'avoir été avec nous sur RCF. À une prochaine rencontre.